Pourquoi elle fait ça? Je lui dis, tu sais pourquoi elle fait ça? C'est pour te réveiller. C'est pour te réveiller. Dans le sens, on a besoin d'être réveillé spirituellement. Si on s'endort spirituellement, ce n'est pas possible de vivre avec Jésus. Ce n'est pas possible de vivre la vie d'église. Ce n'est pas possible d'avancer, de persévérer. On va s'éteindre petit à petit et on va tout simplement être consommé par le monde. Il y a beaucoup de choses qu'il y a dans le monde, dans nos vies personnelles, dans nos activités, qui peuvent nous absorber et nous endormir spirituellement. Il dit ici, réveille-toi, toi qui dors. Une allusion, donc, claire au sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, je veux dire un mythe, mais c'est une réalité. Si tu te refroidis, tu vas t'endormir spirituellement. Donc, Paul, il dit ici, réveille-toi. Donc, la personne qui s'endort, malheureusement, elle ne peut plus être efficace pour le Seigneur. Qu'est-ce qui peut nous endormir? Notre manière de vivre. Notre manière de vivre peut être une vraie cause d'endormissement. Par exemple, si on ne fait que sortir les nuits et que le matin, on n'arrive pas à se réveiller, on s'alcoolise tous les jours et on va au bar d'à côté, ce n'est pas votre cas certainement, mais il y a des cas comme ça dans notre cher pays, la France. Et vous connaissez, la France est le pays du bistrot. Allez dans le bistrot, vous allez voir. Donc notre manière de vivre, elle peut vraiment causer un endormissement et nous éloigner du Seigneur. Et Paul, il écrit ici, tout en ayant la perspective du retour de Christ. Il dit, veillez sur votre manière de vivre, ne vous endormez pas, parce que le Seigneur va revenir, parce qu'il va parler de racheter le temps après. Le Seigneur, il va revenir, donc veillez. Et sur le retour du Seigneur, vous connaissez bien Martin Luther, le grand réformateur, il disait, si le Seigneur revenait demain, je vais planter un arbre. C'est-à-dire, je reste toujours actif pour lui et pour sa cause, même s'il revient demain. Et quand on parle du réveil ou du sommeil, on parle aussi du réveil spirituel dans les pays et des mouvements spirituels. Par exemple, en Chine, le mouvement du réveil spirituel, les années 80, 90, l'Église a connu vraiment un boom extraordinaire dans les églises de maison. Et en Algérie, par exemple, les années 90-2000, pareil, il y a un vrai boom parmi les Kabyles où il y a des milliers de gens qui viennent au Seigneur. Et ça s'appelle le réveil spirituel. On parle aussi du réveil de Wesley, de l'époque de Wesley, en Angleterre, du réveil pentecôtiste qui est venu, qui a commencé à New York, qui est venu en Normandie les années 50, etc. Tout ça, c'est les réveils spirituels. Le réveil spirituel, c'est l'action de l'esprit pour ramener les gens au salut. Donc tout cela, Paul, je pense que Paul avait cela en esprit pour qu'il puisse nous exhorter à ne pas s'endormir. Soyez éveillés et sensibles à l'action de l'esprit pour que vous puissiez participer à l'œuvre de Dieu. Donc, réveille-toi. Amen. La deuxième chose qu'il a évoquée, Paul ici, il parle, ne soyez pas insensés. Il a opposé entre sensé et insensé. Et je pense ici, un insensé, c'est quelqu'un, bien sûr, qui ne maîtrise pas vraiment sa manière de vivre. Il la vit d'une manière tout simplement insensée. Et vous êtes bien informés que la Bible est remplie de passages sur le sensé et l'insensé, le sage et l'insensé. Et je vais vous rappeler quelques-uns. Dans Proverbe 17, on peut lire ceci. Nous devons tout faire pour brider nos passions et éviter la compagnie des insensés. Intéressant. Donc la Bible nous appelle à carrément les éviter. Au verset 6 du Proverbe 18, « Quand l'insensé parle, il provoque des querelles, et ses discours lui attirent les coups. » Incroyable. Et puis, dans Jérémie 5, là, il parle d'une manière collective à tout le peuple. Il dit « Écoutez donc ceci, peuple insensé et sans intelligence. Vous avez bien des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. » C'est les caractéristiques de l'insensé. Donc, il y a un autre passage aussi que je pourrais associer à l'insensé, où la Bible nous exhorte et nous appelle à ne pas rester en leur compagnie. Psaume 1. Et le méchant ici peut être bien vu comme un insensé. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant, qui ne s'assit pas, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. En fait, l'insensé est toujours opposé au sage. Donc la deuxième recette que Paul nous donne ici, c'est d'éviter l'insensé et de suivre la sagesse, et d'être sage soi-même, d'aspirer à la sagesse. Et la sagesse et la science, c'est de connaître l'Éternel. C'est tous les jours, tu aspires à connaître l'Éternel davantage. Tu aspires à savoir qui est Jésus pour toi, qui est Dieu pour toi et quelle place il tient dans ta vie. Quelle est la priorité qu'il occupe dans ta vie. Ça, c'est la deuxième chose que Paul nous donne. La troisième chose qu'il nous donne, il nous demande de bien gérer notre temps. N'est-ce pas? Et certains Africains, ils nous reprochent aux Européens, ils disent, vous avez la montre, nous on a le temps. Mais la Bible ici, elle est bien européenne, on dirait. La Bible nous appelle vraiment à gérer notre temps et à le racheter pour le Seigneur. Et à le racheter pour l'utiliser pour le Seigneur. Le temps, donc, qui nous reste avant d'accéder à l'éternité, avant de rejoindre le Seigneur, est un temps qui nous est donné par Dieu pour que nous puissions le fructifier pour l'éternité. C'est un patrimoine qui t'est donné, une sorte de compte bancaire. Soit tu le remplis, soit tu le vides. Et quand tu le vides, tu vas devenir, à mon avis, plus tard, sans sous, et tu pourras du coup rien faire. C'est un peu l'image que j'avais en tête quand j'avais vu ce mot « racheter le temps ». C'est vrai qu'on a le temps pour aller au cinéma, n'est-ce pas? Hein, il y a le dernier film qui sort, voilà, on se fait un groupe, boum, 8 euros la place. C'est 8 euros la place? C'est 4 euros les moins 26? C'est ça? Aidez-moi, là, vous êtes plus cinéma que moi. Non? Clément, 10 euros? Qui dit mieux? Ah ouais? Oui, on a le temps d'aller au cinéma, on a le temps d'aller voir sa copine, n'est-ce pas? On fait tout d'ailleurs pour aller voir sa copine. On peut faire 200 km sans problème, hein, même avec un vélo, et même à pied. Et on a le temps d'aller faire des vacances à gauche, à droite, en Réunion, aux îles Seychelles, aux Caraïbes, etc., n'est-ce pas? On a le temps de jouer aux vidéos. Et combien nos adolescents aujourd'hui passent à jouer les vidéos 3 heures, 4 heures, une nuit blanche, et ils ne comptent pas le temps, même pas, ouais, je ne me rends pas compte, 4 heures déjà en train de jouer. Je ne sais pas, tous les jeux qui s'appellent, aidez-moi par les jeux, vous... Hein? Powercraft, là, je ne sais plus. Exactement, ouais. Il y a quelqu'un qui adhère. Donc, et on a le temps pour ça. On a le temps d'aller au sport, d'aller s'occuper de son petit corps et tout, hein, bien le sculpter et faire les sports les plus, les plus entretenants de notre corps, etc. On a le temps d'aller en boîte, de danser, de se défouler. Et quand le responsable d'évangélisation, il vient vers toi te dire « Hey, samedi, on a une sortie à la gare. Tu viens ?» Tu dis « tu bloques. » Tu dis « Ah non, j'ai un rendez-vous. » Tu essayes d'éviter. Tu as le temps pour tout, mais pour Dieu, c'est dur de racheter le temps pour Dieu. Je dis ça par connaissance de cause, et je me le prêche à moi-même aussi. Hein. Et on a le temps pour tout, n'est-ce pas? Mais on n'a pas le temps pour les choses du Seigneur. Paul, il dit ici, rachetez le temps. Et dans d'autres passages, Colossiens, il dit, rachetez le temps car le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. Le Seigneur va revenir bientôt. Je ne sais pas comment vous vivez ça. Parfois, on pense même pas que Jésus va revenir, alors qu'il peut nous surprendre à chaque instant. Peut-être quand je finis cette prédication, tout de suite, on sera enlevé au ciel. Qui sait? Il ne nous a pas donné de date, ni d'heure, ni de jour. Donc, rachetez le temps, car il revient bientôt. Donc, on n'a pas le temps d'aller aux réunions de prière, pas le temps d'aller au culte, pas le temps d'aller pour aider les ministères, l'église, pas le temps d'évangéliser, comme je viens de le dire, pas le temps de lire la Bible, pas le temps de parler de Dieu à ses amis, pas le temps de louer le Seigneur, etc., etc. N'est-ce pas? Je pense que le Seigneur nous rappelle ici, et si vous lisez donc, il y a beaucoup de passages dans le Nouveau Testament qui parlent du retour de Christ en tout cas, mais j'ai choisi Apocalypse 2 et dans plusieurs versets, Jésus il dit au verset 7, il dit « Je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre ». À chaque fois il dit « Je viens bientôt hein ». Et puis au verset 12 normalement, Jésus il redit la même chose. Il dit « je viens bientôt, j'apporte avec moi mes récompenses pour chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin ». Il dit toujours cette expression « je viens bientôt ». Et à la fin du chapitre, « Oui, je reviens bientôt. » Incroyable. « Je viens bientôt, oui, je reviens bientôt. » Et il continue, « Oh, qu'il soit ainsi, viens Seigneur Jésus. » Donc ça, c'était la prière de Jean. « Qu'il soit ainsi, viens Seigneur Jésus. » Donc, il va revenir bientôt. Le Seigneur nous appelle vraiment à racheter notre temps. Et à le gérer et à le donner au Seigneur. Ça va? Vous n'êtes pas culpabilisé, ce n'est pas mon but. Hein. Mais je vous encourage vraiment à prendre votre temps et à dire « je veux le fructifier pour le Seigneur ». La troisième chose qu'il dit ici, la quatrième, pardon, « pas d'ivresse opposée au Saint-Esprit ». Donc ici, Paul, dans le contexte, ailleurs même pour Timothée, et il l'a conseillé de boire pour son estomac, parce que Timothée avait des soucis d'estomac, mais il ne l'avait pas conseillé de s'enivrer. Et dans l'Ancien Testament, les consacrés à Dieu, les hommes de Dieu, ou bien les aînés consacrés, ils s'abstiennent de prendre les liqueurs. Comme Samson, par exemple. Donc, on ne boit pas les liqueurs. C'est une preuve de consécration à Dieu. Donc on ne s'enivre pas, mais on cherche. Ici, Paul oppose, mais enivrez-vous du Saint-Esprit. Mais dans notre, en notre expression, soyez remplis du Saint-Esprit. Comment on peut être rempli du Saint-Esprit? Je n'ai pas parlé du baptême du Saint-Esprit. Je n'ai pas parlé des dons du Saint-Esprit ou du parler en langue, etc. Mais être rempli du Saint-Esprit, moi je le vois dans Galates 5, 22, où vous allez soumettre votre vie à la vie de l'Esprit, et la vie de l'Esprit va se fructifier en vous. Elle va donner la paix, elle va donner l'amour, elle va donner la joie, elle va donner la maîtrise de soi. C'est tout cela qui est la vie qui est connectée à l'Esprit. D'accord ? Et être connecté à l'Esprit, après, viendra la prophétie, après viendra la parole d'encouragement, après viendront les dons de l'Esprit. Mais si on n'est pas connecté à la vie de l'Esprit, on ne peut pas inverser les choses. Dire, allez, je vais aller parler en langue, mais ma vie, elle est complètement contraire à la vie de l'Esprit. Voilà. Vous avez peut-être compris maintenant ma théologie de l'Esprit. Et c'est comme ça, je pense qu'il faut interpréter la question de la vie avec l'Esprit. Ou être rempli de l'Esprit. Il a opposé donc ici à l'ivresse, parce que l'ivresse, si vous connaissez des gens victimes ou bien qui se donnent à l'alcool et qu'on appelle un alcoolique, c'est pas beau à voir, n'est-ce pas? C'est vraiment pas beau. C'est destructeur. C'est juste une manière de se tuer à petit feu. Et la Bible, elle lit ça aussi, elle connecte ça à la personne insensée. Quand on est insensé, on se donne à l'alcool. Et on tue notre corps qui est le temple de l'Esprit. Et par opposition aussi, il disait, Paul ici voudrait dire aussi que votre corps, c'est le temple de l'Esprit. Donc laissez ce temple être habité par l'Esprit, mais pas par l'alcool et ce qui peut le détruire. Amen. La cinquième chose qu'il nous donne comme recette ici pour veiller sur notre vie, c'est l'encouragement mutuel. Je ne sais pas ici à Samor comment vous vivez l'encouragement mutuel, mais l'encouragement mutuel est presque un commandement. Dans une église où on ne vit pas l'encouragement mutuel, en fait, on voit comment certaines personnes deviennent faibles et lâchent le Seigneur et l'Église à la fois. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été encouragées. Elles n'ont pas été soutenues. Et la vie ensemble signifie l'encouragement, en tout cas. Je ne sais pas si je vous ai déjà partagé l'exemple de l'encouragement et du soutien mutuel par l'émigration des oies. Vous connaissez cette illustration? Non? Alors, je vais la redire. L'émigration des oies, elle se fait, je ne sais pas si vous avez remarqué ces oiseaux voler dans le ciel, ils volent toujours en V, n'est-ce pas? Ils font une ligne sous forme d'un V. Déjà, pourquoi un V? C'est pour bien ouvrir le vent, qui est moins de résistance quand on vole. Mais ce V, ils ne peuvent pas le former s'ils ne sont pas ensemble. Donc il faut qu'ils soient ensemble. Ils se soutiennent ensemble pour former le V et voler et bien ouvrir le vent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous avez remarqué, il y a toujours un à la tête du V. Et puis, le V, logiquement, il y a deux queues. OK ? Deux extrémités. C'est que l'oie qui est au devant, quand elle est fatiguée, elle laisse la place à la deuxième oie qui est à côté d'elle, qui va prendre la tête, parce que c'est elle qui ouvre le vent. Et ainsi de suite. Dès qu'elle est fatiguée, elle laisse la place à l'autre. Donc le V, il change. La personne qui prend la tête, elle change. Et puis, celles qui sont tout à la fin, elles veillent sur celles qui tombent, celles peut-être qui sont chassées par un chasseur, et qui sont blessées. Quand elles sont blessées, deux autres oies se détachent pour aller voir ce qui se passe, s'il y a une qui tombe. Ils vont aller l'accompagner et rester avec elle jusqu'à ce que soit elle meure, ça veut dire c'est bon, ils vont l'enterrer, ils vont la laisser pour morte. Et si elle n'est pas morte, ils vont rester jusqu'à ce qu'elle soit soignée, jusqu'à ce qu'elle se relève, elle reprend force et ils vont l'aider à voler avec elle pour reprendre, rattraper le troupeau. Et voilà la vie de l'encouragement ensemble. J'ai toujours aimé cette illustration. Elle est vraiment comparable à la vie de l'Église. Donc, on a besoin de vivre l'encouragement les uns pour les autres, pour que les faibles soient soutenus par ceux qui sont forts. Donc, si tu peux encourager, n'hésite pas à encourager. Ne cache pas ta capacité d'encourager. C'est un don spirituel, en tout cas, ceux qui ont le don d'encourager. Si tu as besoin d'être encouragé, n'hésite pas à demander l'encouragement auprès de tes frères et sœurs. Ça fait partie de la recette de Paul ici pour une vie saine. Amen. Le sixième outil que Paul nous donne ici, il nous donne l'outil de la louange. La louange est une manière de reconnaître Dieu et de se prosterner devant lui. C'est une manière aussi de vivre le premier commandement, d'accord ? De l'aimer, hein, de l'adorer de tout notre cœur, notre pensée, notre âme, etc. Donc, qu'est-ce que la louange ? C'est une respiration vraiment spirituelle entre moi, pour moi, dans ma vie avec Dieu. Si je ne loue pas, c'est comme si je ne respire pas. C'est comme si je ne connais pas qui est Dieu. Pourquoi je loue Dieu? Vous savez bien sûr pourquoi vous louez Dieu. Je loue parce qu'il m'aime. Je loue parce qu'il est mort à la croix pour moi. Je loue parce qu'il m'a donné une bonne santé. Je loue parce qu'il m'a donné une famille. Je loue parce qu'il m'a donné une église. Je loue parce qu'il m'a donné des frères et sœurs. Je loue. La liste est tellement longue. Il y a tellement de raisons pour que tu puisses louer Dieu. Mais Paul, il considère ici, il dit, c'est un entretien. Entretenez-vous. C'est un entretien. J'entretiens ma vie, mon âme, mon esprit, ma vie spirituelle par la louange. Je ne sais pas si, comment tu mesures ton évolution dans la louange. Est-ce que, par exemple, par rapport à l'année passée, tu connais plus de chants? C'est un exercice. Est-ce que, par rapport à il y a 2 ans, tu as régressé, tu as oublié des chants? Alors que tu connaissais peut-être 100, et là, tu connais que 70. En fait, Paul, il nous invite ici vraiment à enrichir notre vie par des cantiques. Il parle de cantiques, il parle de psaumes, des cantiques spirituels, des nouveaux chants spirituels. Et c'est ça qui édifie notre vie. C'est ça qui construit notre vie. Je suis très heureux de voir que les groupes de louanges, ici, vous vous souvenez, notre premier concert ici, de louanges, qui a des souvenirs ici? Hein? De Michael, il a des souvenirs, je pense, non? Il y a ceux qui ont joué. Et je me rappelle, la salle était pleine, on mettait même des chaises dans le couloir. Et à un certain moment, certains membres du groupe de louanges, ils ne savaient même pas prendre une guitare. Ils ne savaient même pas mener un chant. Et parce qu'ils se sont mis, ils se sont fait une discipline de louange, ils se sont mis à prendre, ils sont arrivés à faire un concert. Et un concert, moi j'ai toujours la vidéo. À chaque fois que je la vois, je suis très ému et très encouragé. Comment la louange, elle peut vraiment travailler notre vie spirituelle et nous aider à évoluer. Je dis toujours ça quand je parle de la louange. Et je me rappelle aussi, Yadira, elle avait fait un petit groupe gospel. Vous vous souvenez de ça? Et en peu de temps, elle a pu coacher quelques personnes et on a chanté du gospel aussi. Avec toute la vague de Kumarianos et sa chorale, et tout le monde était boosté et tout le monde était encouragé à chanter le Seigneur. Et je dirais toujours ça, que saint Augustin considère la louange comme une prière de foi. Quand je loue, c'est comme si c'est un grand bonus en fait, un bonus extraordinaire devant Dieu. Je loue le Seigneur, c'est comme si je le prie de foi. Pour ma première partie d'aujourd'hui, je termine avec ce dernier point. Donc, si tu penses que ta vie de louange n'est pas développée, je t'invite à faire une discographie chez toi. MP3, disque ancien. Procure-toi de la bonne louange pour te préparer au ciel et pour te préparer vraiment à louer Dieu et à l'adorer. La dernière chose, avant de passer à mon rapport sur la mission, la soumission les uns pour les autres. Paul ici, au dernier verset, 21, il dit, « Ceux qui vénèrent Christ, ils se soumettent les uns les autres. » J'aime bien cette parole. C'est une parole, c'est un appel de Paul ici à l'ordre dans l'Église et au respect dans l'Église. Et il y a bien sûr dans son esprit se soumettre aux responsables, se soumettre aux leaders de l'Église, mais il va plus loin. Il dit qu'il faut vous soumettre les uns pour les autres. Ça veut dire même entre frères, on doit se soumettre les uns pour les autres, pour que l'Église puisse vivre une vie spirituelle saine, et pour toi et pour ta communauté. Si on ne se soumet pas les uns les autres, malheureusement, j'en connais des églises, et c'était des divisions en divisions. Et c'était vraiment des églises brisées à cause du manque de soumission les uns envers les autres. Amen. Donc, sept points pour notre recette. La recette que Paul nous donne ici, je vous encourage à prendre ces sept points, juste ces sept points, pas besoin de prendre des grandes notes. Vous prenez une photo et vous dites comment je peux vivre une vie saine selon ce passage.